Bienvenue dans le troisième épisode des Voix de Buenaventura, je suis parce que nous sommes. Je suis Pauline, chargée de projet pour l'association Agir Ensemble pour les droits humains, et je vous invite à partir avec moi à la rencontre des communautés autochtones et afro-colombiennes de Buenaventura. L'hymne Guardia Fuerza, dont vous entendez un extrait, est un chant pour revendiquer la race, la justice et les racines des communautés autochtones colombiennes. Il a été créé par des artistes colombiens et colombiennes, accompagnés par des membres de communautés autochtones, et il a pour objectif de rendre visible la mission et la fonction de ces communautés. Vous pouvez le trouver sur YouTube ou sur toute autre plateforme de streaming, et je vous conseille de l'écouter, ses paroles sont vraiment très fortes. Buenaventura a toujours été considéré comme un territoire de communautés noires. Plus de 90% de sa population s'identifie comme noire ou afro-colombienne et est de facto davantage représentée dans les institutions publiques et les organisations de la société civile pour une raison démographique tout simplement. Ces populations souffrent de voir leur territoire se fragmenter à cause des frontières invisibles ou des casas des piquets tels qu'on a pu le voir dans le deuxième épisode. Les groupes armés leur imposent aussi des restrictions sur leurs pratiques sociales traditionnelles, en leur bloquant par exemple l'accès à leurs lieux de rencontre ou en restreignant la tenue des fêtes sociales ou religieuses. Tout cela contribue à transformer leur logique spatio-temporelle et conduit à la destruction de leurs pratiques et de leurs relations construites historiquement sur la base de la solidarité. D'autre part, le territoire, ancestralement habité par des populations autochtones, est organisé en 5 communautés, les Naza, les Wonan, les Inga, les Siya et les Emberachami. Chaque peuple possède sa propre langue, sa vision du monde, ses connaissances et sa diversité. Malheureusement, leurs identités sont remises en question par les attaques et violations de leurs droits par les groupes armés. Cela met en péril leur stabilité sociale, culturelle, organisationnelle, politique et ancestrale, tant au niveau individuel que collectif, et donc finalement à la survie de leur communauté. De nombreux leaders ancestraux sont victimes d'assassinats, de disparitions forcées ou de menaces, et ces actions se répercutent sur l'ensemble de la communauté. Dans cet épisode, on va rencontrer Luz Karen et Alejandro, membres de la communauté Ipueuja et du peuple Siya. Cette communauté est originaire de Bajo Calima et a dû se déplacer vers la commune 12 de Buenaventura en 2003 à cause du conflit armé, avant de s'installer finalement dans la zone rurale en 2010. On va également rencontrer Janet, une femme indigène âgée de 38 ans. Elle y est arrivée à 11 ans pour garder des enfants jusqu'à tomber enceinte de son premier à 16 ans. J'aurai également le plaisir de vous présenter Fiore Longo, directrice de Survival International France, le mouvement mondial pour les peuples autochtones qui défend leur vie, protège leurs terres et les aide à déterminer leur avenir. Luz Karen a 24 ans, elle a 3 frères et un fils de 3 ans. Elle est membre de la communauté autochtone Ipueuja, mais elle a vécu une grande partie de son enfance avec une communauté afro-colombienne et non autochtone. Elle est née en centre-ville de Buenaventura, mais elle a dû se déplacer en campagne après avoir obtenu son bac, à cause d'une part du conflit armé et d'autre part du sentiment de solitude qu'elle ressentait puisqu'elle était éloignée de sa famille. Elle m'a raconté cette difficile étape de sa vie.
C'était dur. Vraiment très dur de quitter les territoires où on avait tout, où on avait construit notre maison, notre chez-nous, et de laisser tout ça derrière nous. C'est très dur. Je pense que c'est quelque chose de très fort et que ça nous affecte surtout, nous les gens, parce que nous sommes très engagés envers notre communauté et nous avons la responsabilité de l'aider. Mais si nous sommes déplacés dans une zone urbaine que nous ne connaissons pas, cela peut complètement changer la direction, la vision et la mission que nous avons. Et je pense que c'est quelque chose de très fort et compliqué.
On a parlé de communauté autochtone. J'imagine que ces deux mots séparément font sens. Mais savez-vous ce qui se cache derrière ce concept ? C'est ce que nous allons voir avec Luz Karen. Elle m'a accueillie dans sa langue natale en me disant Sanga e wari, sanga e wari hida. Ce qui signifie bonjour, comment avez-vous dormi? Puis, elle m'a dit que chaque communauté autochtone a sa propre représentation.
La garde indigène est celle qui guide la communauté, qui est toujours à l'affût de tout problème, qui coordonne tout événement. Nous sommes toujours là pour aider pour que tout se passe bien.
Alors qu'avant, le représentant de la garde indigène était nécessairement un adulte, aujourd'hui, un jeune adolescent peut assumer cette responsabilité. Pour eux, ce poste est synonyme de responsabilité, d'engagement, de solidarité et d'autonomie. Des valeurs fondamentales qu'un adolescent doit apprendre pour sa communauté. Ce poste est d'autant plus important pour ces jeunes qui ont difficilement accès à l'emploi et à l'éducation.
Il n'y a pas de travail et nous avons beaucoup de conflits, nous voyons beaucoup de conflits et les plus touchés sont toujours les gens. Et ce qui rejoint les groupes armés, c'est parce que parfois, ils n'ont rien à faire. On ne leur donne pas d'opportunités. Certains en ont, mais d'autres non. Alors que nous avons tous et toutes les mêmes capacités pour aller à l'école.
Luz Karen m'explique que les femmes de la communauté Ipuehuja n'ont accès qu'à des activités précaires, le plus souvent dans un restaurant à proximité de leur campement.
Il y en a d'autres qui n'ont pas de travail, mais qui utilisent des objets artisanaux. Ce sont des artisans, mais ce n'est pas un revenu que l'on perçoit tous les jours ou tous les mois. On reçoit un peu d'argent et quand il y a quelqu'un qui les vend, alors on les vend. Mais du travail en soi, il n'y en a pas vraiment.
C'est triste de constater que de nombreux indigènes doivent travailler pour subvenir à leurs besoins primaires, alors que sur leur territoire ancestral, ils s'autosuffisaient. Et c'est encore plus triste de voir que l'accès à l'emploi ne leur est pas favorisé. Mais ce qui m'a le plus marqué et touché lors de mon entretien avec Luz Karen, c'est l'entraide et le soutien qui existent au sein des communautés, qui partagent les mêmes souffrances et le même rejet de leur culture par l'État et même par la société urbaine.
Avant-hier, nous avons participé à une grève. C'était à la mairie avec toutes les communautés ici à Buenaventura, nous y sommes allés. C'était à cause d'engagement noté nous depuis un certain temps, à cause de l'abandon parce qu'on allait passer des accords il y a 2 ans, mais ils ne nous ont pas pris en compte, nous les communautés, alors que nous leur avions dit par l'intermédiaire de notre représentant à travers le dialogue. Ils nous disaient toujours oui, oui, mais au moment de la réunion, c'était comme s'ils avaient oublié. Alors, cette grève, c'était la seule façon que nous avions trouvée pour dialoguer et pour arriver à un accord. Nous attendons cela parce que sinon, nous n'allons plus croire le maire. Nous allons rester là jusqu'à ce qu'ils respectent ce qui a été convenu.
Alejandro m'a aussi parlé de cette unité qui leur permet de faire entendre leur voix. Il a 21 ans, il est né à Buenaventura dans la commune 12 et est membre de la communauté Ipuehuja depuis 2003. Il est marié et a une fille de 2 ans. Il n'étudie pas car il est second du gouverneur, rôle qui lui confère la responsabilité d'organiser des réunions, de veiller à la bonne coordination et de représenter sa communauté à l'extérieur. Il a été élu pour 1 an par vote populaire, donc il était très bien placé pour me parler de l'unité imagée par le terme Minga.
Grâce à l'unité, nous avons réalisé de grandes choses. Tout cela en lien avec la CIBA, qui est notre organisation dont nous faisons partie. Et oui, ici le peuple, les 5 peuples que nous sommes ici à Buenaventura, nous travaillons beaucoup sur ce qu'est l'unité, ce que nous appelons la Minga. Et donc, quand il y a une grève, on l'appelle toujours la Minga indigène. De grandes choses ont été réalisées grâce aux Minga indigènes. Ici, nous avons eu plusieurs grèves qu'on appelle les Minga, car parfois, il y a des manquements au droit à l'éducation, au droit au territoire, au droit à la santé, au droit à la participation. Car avant la participation au sein de l'organisation départementale à Buenaventura, le cabinet, comme ils l'appellent ici, était minime. Et nous n'avions pas de fonctionnaires au sein de la mairie autochtone.
Tout cela a été possible car la communauté était déjà organisée depuis 2003. En 2010, alors qu'elle vivait en zone urbaine, elle a été forcée de se déplacer vers la campagne de Buenaventura. Et Alejandro m'a expliqué son arrivée en zone rurale.
Le conflit armé, à l'époque c'était les FARC. Et le peuple a vraiment été très affecté par le conflit armé. Depuis toujours et encore maintenant. En 2003, nous avons été obligés de nous déplacer. Nous avons été victimes de déplacements forcés et contraints de quitter notre territoire. Nous avons perdu tellement de choses. Notre cosmovision, c'est-à-dire notre culture, nos traditions, notre manière de vivre et de voir le monde. Nous, nous nous sommes retrouvés dans une zone urbaine, dans une vie qui n'était pas la nôtre. Un monde dans lequel on ne se retrouvait pas, tellement éloigné de notre quotidien. Nous étions habitués à vivre de la pêche, de la récolte, du tressage de paniers, de la fabrication d'objets artisanaux. Mais nous avons perdu tout cela. Nous avons été forcés de quitter un territoire dans lequel nous étions bien pour aller dans un autre dans lequel nous ne nous sentons pas chez nous. Ça a été une très grande perte et souffrance. En 2010, nous avons été déplacés de nouveau. Nous sommes arrivés à l'endroit où nous sommes aujourd'hui, le kilomètre 23 dans le village de Sainte-Hélène.
Ces déplacements forcés ont des conséquences très lourdes pour le maintien et la protection de la culture de sa communauté. Malgré tout, la solidarité des membres de sa communauté leur a permis de s'installer durablement à Santa Elena.
Depuis 2015, on vit tous ici. Ça a commencé à se faire parce que ici le travail se fait en Minga, c'est-à-dire en communauté. Petit à petit, ça a commencé à être notre maison. On s'entraide. Si une personne veut construire une maison pour y vivre, eh bien tout le monde va pour l'aider. C'est donc de là que vient l'organisation du territoire et de la communauté en général.
Les communautés autochtones ont pour habitude donc de s'organiser pour avoir du poids face aux dirigeants et dirigeantes politiques qui ne les prennent que très rarement en considération dans leur prise de décision. Si le quotidien des adultes est riche en planification, gestion, discussion, etc., il l'est aussi pour les jeunes qui ont la chance de pouvoir étudier auprès de l'Ouskalen. C'est une opportunité pour eux de faire perdurer les pratiques ancestrales. Elle est enseignante dans sa communauté et m'a décrit sa journée type.
En ce moment, j'enseigne dans cette petite école au centre de la maternelle en première et deuxième année. Tous les matins, je viens ici pour enseigner à 13h30, je pars étudier. C'est ma routine quotidienne. Je pars de l'école et je vais directement étudier. Ici, nous enseignons aussi aux enfants notre propre culture. Il est important d'enseigner ce qui vient de l'extérieur, mais aussi de garder ce qui nous appartient, de garder notre culture vivante. Donc, nous leur enseignons notre processus d'organisation. Nous les formons pour qu'ils intègrent la guerre indigène. C'est une façon pour nous de commencer à participer à notre processus d'organisation. Nous enseignons à tous les enfants nos croyances, notre culture, notre langue, notre médecine traditionnelle et l'importance de celle-ci. Grâce à ça, nous sommes en train de récupérer, retrouver et maintenir nos savoirs et coutumes, notre langue et nos tenues traditionnelles. On doit maintenir en vie nos traditions et les enfants aussi ne doivent pas les perdre. Surtout notre médecine traditionnelle, quand certains d'entre nous se sentent mal, par exemple, ou sont malades, on n'est pas obligé d'aller à l'hôpital. On peut avoir recours à la médecine traditionnelle à ce qui est à nous.
Même si les communautés autochtones sont de plus en plus contactées par les sociétés modernes, Fiore Longo nous parlera du concept de peuple non contacté dans quelques minutes, le maintien de leur culture reste une priorité pour elles-mêmes, mais aussi pour le monde entier. L'enseigner aux nouvelles générations participe donc à la préserver. Concernant précisément les femmes afro-colombiennes et autochtones, Janet, née dans le Chocó mais vivant à Buenaventura depuis ses 11 ans, est déplacée interne au sein même de Buenaventura. Elle m'a apporté des éléments permettant de comprendre la discrimination que subit une femme autochtone à Buenaventura et je souhaite les partager avec vous.
On ne nous donne pas d'opportunité juste parce qu'on est une femme. Et les femmes autochtones sont en plus rejetées parce qu'elles sont indigènes. Les femmes métisses ont plus d'opportunités. Peut-être parce qu'elles sont enlevées d'une manière différente. Les coutumes et la culture affectent aussi la manière de se construire et d'être. Elles sont plus ouvertes, elles sortent et expérimentent plus. Elles connaissent mieux les marchés de travail, mais pas nous. Ni les femmes de la campagne ou d'ici à Buenaventura. Mais c'est de ça dont nous avons besoin. Les femmes du port de Buenaventura avons besoin.
Pour parler des populations autochtones en Colombie, la personne la plus adaptée selon moi est Fiore Longo, la directrice de Survival International France, le mouvement mondial pour les peuples autochtones qui défend leur vie, protège leurs terres et les aide à déterminer leur avenir. Fiore a rencontré les Nukak, un peuple non contacté, et m'a expliqué leurs particularités tout en faisant un état des lieux de la législation en vigueur et des violations que subissent les peuples autochtones de toute la Colombie.
La situation de la Colombie au niveau des peuples autochtones, je pense que c'est une des plus intéressantes au monde. par le fait qu'on a un pays avec une législation absolument incroyable. La constitution de 1991 a reconnu beaucoup des droits des peuples autochtones. En plus, la Colombie a signé aussi la convention 169 de l'Organisation internationale du travail, qui c'est pour l'instant l'instrument le plus important pour les peuples autochtones, parce qu'elle oblige les États qui les signent à respecter leurs droits. Survival elle-même, l'association, a pris les mouvements des peuples autochtones en Colombie en exemple, parce que c'est là-bas où, pour la première fois, on a commencé à parler des autodéterminations des peuples autochtones. À l'époque, les débats, c'était entre inclusion des peuples autochtones dans la société dominante et donc leur disparition, donc intégration avec disparition ou isolement. Donc, c'est les peuples autochtones de la Colombie, pour la première fois, qui ont commencé à parler des autodéterminations. Et nous, on a pris un exemple, ça, et Survival Lutte pour la autodétermination des peuples autochtones. Donc, c'est un pays où on a plus d'une centaine de peuples autochtones, un pays dans lequel les peuples autochtones ont leur droit territorial que nous, et dans lequel les mouvements autochtones sont extrêmement forts et vraiment puissants, dans le sens que les gens, ils sont vraiment, ils luttent vraiment, ils sont vraiment organisés pour leurs droits. Et de l'autre côté, on a un pays avec des violations des droits de l'homme, et en particulier des violations des droits des peuples autochtones, qui sont absolument terribles. Les peuples autochtones, ils sont tués s'ils défendent leur territoire, ils sont tués s'ils parlent, ils sont tués quand ils essayent de défendre leurs ressources. On a aussi l'exploitation de leur territoire, donc par des compagnies minières, par des chercheurs d'or, par des personnes qui essayent de voler leurs ressources. Le troisième sujet que je trouve extrêmement important, c'est la question des peuples non contactés. Et c'est aussi la raison pour laquelle la Colombie, c'est un pays tellement riche en diversité culturelle. Aussi en biodiversité, il y a un lien entre les deux. Ça veut dire que ce sont des peuples qui n'ont aucun contact pacifique, je dirais, avec la société majoritaire. Ce sont des peuples qui sont restés isolés, surtout dans la forêt, je expliquerai où ils sont, et qui refusent et rejettent les contacts avec la société dominante. Soit parce qu'il y a une mémoire collective des rencontres dramatiques avec la société dominante, donc une rencontre s'est passée il y a longtemps et qu'il a laissé une blessure dans la population, soit parce qu'ils ont entendu parler de qu'est-ce qui se passe avec les personnes, les peuples quand ils sont en contact avec les sociétés majoritaires. C'est important de respecter leur droit au non-contact, parce que les contacts peuvent signifier la mort. Ils n'ont aucune immunité envers les maladies telles que la rougeole ou la grippe. La Colombie, c'est un des pays avec plus de peuples non contactés. En théorie, parce qu'il y a la reconnaissance, c'est une autre chose, mais après, les Pérou et les Brésil, Pérou. Donc la majorité de ces peuples, ils sont dans la Amazonie colombienne. Et l'État colombien, il a reconnu officiellement tous ou trois de ces peuples, mais on pense qu'il y a environ 16. Mais ce sont des chiffres, pour l'instant, il n'y a pas de certitude. Les Nuncak, c'est un peuple qui était sans contact dans l'Amazonie colombienne, dans la région El Guaviare, jusqu'à la fin des années 80. Donc, ils ont été contactés, ils sont sortis de la forêt dans les 1988 parce qu'il y avait des personnes qui étaient malades. On pense qu'à cause du contact avec des missionnaires. Une fois qu'ils ont été à contact avec la société majoritaire, la moitié de la population est morte. La moitié, à cause des maladies comme des maladies de la respiration, la grippe, des maladies envers lesquelles nous avons bien sûr des immunités, mais eux, ils ne sont pas. Survival a lutté à leur côté pour obtenir la reconnaissance territoriale qu'ils ont eu dans les 1993, et après, les territoires étaient grandis aussi. Aujourd'hui, les Nuncak sont un des territoires autochtones reconnus plus grands de la Colombie. Par contre, ils ne peuvent pas vivre dans leur territoire. À cause surtout de la guerre civile et de l'expulsion forcée à main des groupes armés. Et après, une fois que les traités de paix étaient signés dans les 2016, à cause de l'invasion aussi des narcotrafiquants. Donc eux, ils ne peuvent pas retourner dans leur territoire, ils sont dehors. Moi-même, je l'ai visité et c'est une des choses vraiment la plus triste que j'ai vue dans mon travail en survival. Parce que les Nuncak étaient des chasseurs-cueilleurs, comme la majorité des peuples non contactés. Ils dépendent 100% de la forêt pour vivre, ils chassent, ils font de la cueillette. Et là, ils sont sédentarisés avec comme des camps de réfugiés, juste pour vous expliquer. Ils ne peuvent plus chasser, ils ne peuvent plus retourner dans leur forêt. La moitié de la population, comme je vous expliquais, est morte. Donc, les personnes qui sont survécues, ils sont des survivants, avec la mémoire traumatique de la rencontre. Pour gagner de l'argent, ils travaillent pour l'industrie du narcotrafic. Surtout, ils font la cueillette de la poule de coca. Ils sont payés des fois par une drogue ou par un alcool, donc avec toutes les conséquences que ça a pour la jeunesse. Donc on a un taux de mortalité de la jeunesse énorme, des consommations d'alcool, des consommations de drogue, des violences familiales. Pour protéger les peuples non contactés, la seule chose qu'un État peut faire, c'est démarquer leur territoire et dire que dans leur territoire, il n'y a personne qui puisse rentrer. C'est ce qu'il fait aussi l'État de la Colombie à partir d'une loi qui a été approuvée, je pense que c'était 2018-2019, mais il n'y a pas longtemps, c'était la dernière chose que le président Santos a approuvée. C'est une loi qui reconnaît l'existence des peuples non contactés, qui reconnaît que seulement les non-contacts et empêcher des personnes d'envahir leur territoire, c'est la seule manière de les protéger. Par contre, l'implémentation, la réalisation de ces décrets, il reste très loin de se réaliser, surtout avec le nouveau gouvernement d'Eduque. Et donc, ces peuples restent énormément menacés parce que c'est très difficile de contrôler les groupes armés, les trafiquants de drogue qui entrent dans les territoires où il y a des peuples non contactés. Et aussi, il y a un autre grand danger, qui c'est les évangélistes fondamentalistes qui essayent de pénétrer dans leur territoire pour les convertir. Et c'est en réalité en toute l'Amérique latine, c'est pas seulement la Colombie, mais c'est extrêmement dangereux. L'autre chose, c'est la situation liée au Covid. On a eu malheureusement la mort de beaucoup de leaders autochtones. Et l'autre chose que je voudrais souligner et qu'il ne faut pas absolument oublier, c'est qu'est-ce qui s'est passé après les traités de paix en 2016. Parce qu'on parle beaucoup de la fin de la guerre. Mais la vérité, c'est que la guerre n'est pas finie. Le traité de paix, même s'il y avait un chapitre ethnique, appelé chapitre ethnique, donc il parlait sur la réparation des guerres pour les peuples autochtones. Il nommait aussi spécifiquement les Nukak. On n'a pas pu constater rien de tout ça. Donc il y a encore des groupes armés qui menacent les peuples autochtones. Il y a encore des groupes qui sont déplacés à cause de l'occupation de leur territoire par les narcotrafiquants. On a aussi une histoire d'injustices qui ont été commises pendant la guerre civile, qui n'ont été pas conclues. Ce que je vais vous dire, par exemple, sont les femmes Nukak, dans les cas que je connais, mais des femmes autochtones partout qui ont été violées, soit par des membres de l'armée officielle, soit par des autres groupes armés. Toutes les violences envers les peuples autochtones, pour lesquelles pour l'instant il n'y a pas eu de justice. Parce que quand on parle en général des peuples autochtones en Colombie, il y a un côté extrêmement positif, le fait que ces personnes-là elles sont super résilientes, résistantes, qu'ils luttent, qu'il y a plein de diversité culturelle. Mais il ne faut pas oublier les menaces actuelles, mais aussi les passés, qui ont été extrêmement difficiles pour les peuples autochtones.
Si je comprends bien, la protection des peuples non contactés en Colombie dépend en grande partie de l'implication du futur président colombien ou de la future présidente colombienne. Mais alors chez Survival, avez-vous d'autres attentes du gouvernement colombien pour rendre justice à ces populations non contactées ?
Oui, il y aurait l'implémentation de la loi plutôt à l'avant-garde en Amérique latine pour les peuples non contactés. On parle de la nécessité de démarquer les territoires des peuples non contactés, la nécessité de protéger ces territoires, la nécessité de savoir combien de peuples non contactés il y a, de les reconnaître officiellement, mais tout ça, il n'a pas été fait. Avec tous les problèmes que les peuples autochtones en Colombie font face aujourd'hui, il y a des gouvernements qui n'ont aucun intérêt à protéger les peuples non contactés, parce qu'en fait, ils ne peuvent pas voter les peuples non contactés. Donc la loi, elle existe déjà. Il faut un président qui a envie de la rendre réelle. L'autre question, et ça c'est un enjeu pour les peuples autochtones dans l'avenir, c'est la question de la biodiversité et les carbones que leur territoire protège. Pourquoi ? Parce que le président Duque, il essaye, comme les autres présidents, de vendre leur pays au nom de la protection de la nature. Ça veut dire, en disant, dans notre pays, il y a plein de carbone, parce qu'il y a plein de forêts. Donc, nous, on peut aider les autres pays à compenser leurs émissions. La Colombie recevra de l'argent des pays, par exemple, des compagnies pétrolières en France, pour compenser leurs émissions. C'est extrêmement dangereux pour les peuples autochtones parce qu'ils sont des peuples, donc ils ont des droits spéciaux. Et aussi, ils ont des droits parce qu'ils sont des êtres humains. Et il y a un danger de reconnaître les droits des peuples autochtones juste parce qu'ils sont des gardiens de la nature, parce qu'ils protègent la biodiversité, parce qu'ils protègent les carbones dans les forêts, parce qu'ils lient leurs droits à la protection de la nature. Donc, d'un moment où, pour nous, ils ne protègent plus la nature, en plus, c'est à nous de décider, eux, ils n'auraient plus des droits. Donc, c'est vraiment dangereux. C'est très important, je l'espère, que les nouveaux présidents ou la nouvelle présidente de la Colombie tient à cœur cette question. C'est une transaction injuste parce qu'ici, chez nous, on continue à polluer et on demande aux autres pays de produire des crédits de carbone en déniant l'accès des peuples autochtones à leurs forêts, en essayant d'expulser les peuples autochtones de leurs forêts, en disant ça c'est une forêt protégée, vous ne pouvez plus entrer là-bas.
Merci infiniment Fioré d'avoir utilisé cet exemple concret des Nukak. On a bien compris que la législation existe, mais sans effort du gouvernement ou des pays étrangers, l'extraction minière et les extraditions de communautés de leur territoire par des narcotrafiquants ou des groupes armés ne s'arrêteront pas. J'aurais vraiment aimé développer davantage ces problématiques, et surtout celles relatives aux évangélistes et au Covid, mais malheureusement, il nous faut tenir une certaine durée d'épisode, alors il ne me reste qu'à vous remercier. Et comme c'est notre coutume de conclure avec un message positif, je voudrais vous partager le rêve d'Alejandro.
C'est d'être un grand leader et de faire avancer ma communauté. Grâce à quoi ? Grâce aux connaissances que nous acquérons, et à travers notre engagement dans des projets entreprendre pour la communauté. Je pense que nous ne devons pas compter uniquement sur l'aide du gouvernement. Parfois c'est bien, mais nous devons aussi nous engager nous-mêmes et faire face à l'avenir. C'est comme ça qu'on devient un grand leader.
Merci d'avoir écouté jusqu'ici, c'est tout pour cet épisode. Ne manquez pas le prochain épisode avec les voix de Buenaventura. N'oubliez pas de suivre Agir Ensemble sur tous ces réseaux sociaux afin d'être informé de toutes nos actions. Les Voix de Buenaventura est un podcast réalisé et produit par l'équipe d'Agir Ensemble avec le soutien de l'Agence française de développement, Terre des Hommes France, Suisse et Allemagne, de la ville et la métropole de Lyon, ainsi que de la Fondation Profam et du réseau France-Colombie Solidarité.